Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur l'heure du carillon, sur CFM 90.2, cette émission mensuelle où des chrétiens des paroisses du Villefranchois accueillent d'autres personnes pour aborder quelques thèmes. En septembre, nous avons parlé, à la suite du synode et de quelques changements, de la nomination des prêtres, du départ du Carmel, de la nouvelle organisation des Sœurs de la Sainte Famille. Et aujourd'hui, nous voulons davantage parler de ce qui touche notre vie de citoyen au quotidien, à savoir nos communes, nos villages, nos petites villes, nos bourgs, et tout ce qui touche au niveau à l'organisation de cette réalité qui nous fait vivre chaque jour. Alors pour cela, nous avons invité quelques personnes de nos villages, du Villefranchois, et ils vont maintenant se présenter. Pierre, si tu veux.
Pierre Coste, maire de Villeneuve et vice-président de la communauté commune du Grand Villefranchois.
Raymond, si tu veux.
Raymond Bonesteb, ancien agriculteur à la retraite et maire de Sainte-Croix.
Laurent Tranier, premier adjoint au maire de Villefranche, vice-président de la communauté de communes et éditeur de profession.
Raymond Rébellac, maire de Najac et retraité du BTP.
Voilà, merci donc à tous les quatre d'être venus. Et autour de cette table, pour animer cette émission, il y a
Bernard Lauriac,
Michel Montbresseau.
Et moi, Didier, prêtre à Villeneuve. Donc voilà, communauté de communes, qu'en est-il? Qu'est-ce que cela change? Depuis quelque temps, j'ai lu plusieurs articles de journaux, mais je pense qu'il est intéressant de préciser cette nouvelle organisation, enfin nouvelle, elle est sur les rails depuis longtemps, parce que les compétences ont changé, les prérogatives des communes ont évolué, les problèmes budgétaires ont aussi évolué. Toutes ces questions, on va essayer de les aborder. Je lis l'article 1, officiel. Est créée à compter du 1er janvier 2017 une communauté de communes issue de la fusion des communautés de communes du canton de Najac, du Villefranchois et du Villeneuvois, Diège et Lot. Cette communauté de communes est composée de 29 communes pour une population de 28 769 habitants. Donc ça fait quand même un ensemble un peu important. Et à compter du 1er janvier 2018, les choses concrètement se mettent davantage en place. Voilà, il y a des arrêtés. Alors, si vous voulez, chers amis, je ne sais pas lequel d'entre vous qui veut parler, j'ai lu dans divers articles qu'il y avait des compétences obligatoires, des compétences optionnelles et des compétences facultatives. Alors, j'ai appris bien de choses, et voilà. Alors, on va faire les choses simplement. Qui est-ce qui veut parler sur le fait, qu'est-ce qu'on a laissé au niveau de nos communes telles qu'elles étaient, nos petites communes, pour les passer à la communauté de communes? Qui est-ce qui veut bien causer? Allez, Pierre, allez, dis un mot, vas-y, oui.
En préambule, je dirais une simple chose, c'est que j'ai toujours dit, et certains autour de cette table m'ont déjà entendu dire cela, j'ai été le défenseur, enfin l'avocat plutôt, je disais l'avocat de la communauté de communes, mais je n'en étais pas le chantre. Je n'en étais pas le chantre parce que je me méfie toujours de l'agrandissement des périmètres et de ce syndrome américain que l'on poursuit, à savoir il faut que tout soit grand, tout soit beau. Je préfère parfois l'intimité et j'ai toujours pensé que le bonheur était plutôt dans les petites vallées que dans les grands espaces. Mais enfin, voilà. Donc, ça, c'était en préambule, c'est ma perception des choses. Mais depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes est en place. Ça ne correspond pas tout à fait aux dates, d'ailleurs. je dois dire que cette communauté de communes du Grand Villefranchois, qui résulte donc de la fusion de trois communautés de communes, Najac, Villeneuve et Villefranche, bien sûr, la communauté de communes travaille, met en place des règles, des compétences, et je crois que en fait on aboutit à quelque chose qui est assez intéressant, parce que la communauté de communes repose sur un concept simple, on se groupe, on met ensemble des moyens, on a donc plus de moyens, et on va à l'essentiel. Je crois que ce sont là les principales qualités des communautés de communes qui se mettent en place.
Bon, alors par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur le maire de Villeneuve, monsieur Coste, quel est votre avis par rapport aux communes? Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait 36 000 communes en France alors que dans d'autres pays ils ont réduit? Quel est votre avis par rapport à cela?
Eh bien, écoutez, je dirais simplement que je ne sais plus qui disait j'aime tellement l'Allemagne que j'étais bien content quand il y en avait deux. Eh bien, moi, je vous dirais, j'aime bien les communes, tellement les communes d'ailleurs, que j'étais bien content quand il y en avait 36 000. Parce que ce qui me gêne un petit peu, c'est l'éloignement des centres de décision. Ce qui me gêne un peu, c'est que le terme de proximité ou de ruralité, ce sont deux termes qui servent souvent de point de signe de ponctuation. Mais parfois, j'ai bien l'impression qu'en haut lieu, on les oublie. Alors, moi, j'aime la proximité. J'aime parler aux gens. J'aime les gens. C'est pour cela que je suis maire. Je ne suis pas maire pour soigner une carte de visite. Je n'en ai pas, d'ailleurs.
On peut vous opposer qu'il est quand même difficile, une commune, de vivre avec moins de 500 personnes, par exemple.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y a un problème de budget.
Je ne discute pas cela, c'est vrai. C'est une réalité.
D'accord.
Raymond, tu veux dire quelque chose, peut-être, à propos de cela? Vas-y.
Non, je crois quand même qu'il ne faut pas vider nos communes de certains pouvoirs, parce que c'est très important. Mais c'est vrai aussi qu'on a besoin, à côté de ça, d'une grosse structure. On a besoin de juristes, on a besoin pour l'urbanisme, on a besoin de conseils, on a besoin des techniciens pour la voirie, etc. Mais conservons quand même aux communes un pouvoir, ne les vidons pas de toutes leurs compétences.
Ce que vous dites semble intéressant parce que ça veut dire qu'il y a peut-être une solution plutôt que de tout regrouper. On rejoindrait là M. le maire de Villeneuve. Quel est votre avis, M. Rebellac?
Mon avis, c'est que le regroupement est salutaire, c'est sûr. Mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Faut pas agir dans la précipitation. Bon, il y a des compétences obligatoires, il faut déjà assurer ça. Et ensuite, on va à la pêche d'autres compétences pour essayer d'obtenir davantage de dotations. Ne faisons pas forcément la course au pognon. Il vaudrait mieux peut-être bien réfléchir sur les premières compétences qui sont transférées, parce que c'est pas forcément tout à fait au point. Il y a des choses déjà à revoir au bout d'un an d'expérience.
Entraîner.
Oui, je crois que, en fait, pour peut-être résumer ou en tout cas synthétiser les trois points de vue qui viennent de s'exprimer, l'enjeu, c'est une question d'équilibre entre les communes et entre les compétences qui restent dans les communes et celles qui restent dans les communautés de communes, qui sont transférées aux communautés de communes. Et c'est aussi une question d'esprit, le fonctionnement. C'est vrai que cette fusion que vous évoquiez, Didier, au début de 2017, elle a été subie par certains, il faut bien le dire, et qu'aujourd'hui, au niveau de l'intercommunalité, ça se ressent encore. En fait, on s'est retrouvé confronté à un grand nombre de changements à l'échelle du territoire, tous en même temps, avec une fusion qui nous a conduit à 29 communes, des compétences nouvelles qui ont été transférées des communes à la communauté de communes, et ça aboutit à un temps, j'espère qu'on arrive à la fin de cette année de mise en place, mais une mise en place qui a été assez compliquée, parce qu'il a fallu réorganiser beaucoup de choses au niveau de la communauté de communes, se donner des projets, donc là on y vient, et puis construire une sorte d'esprit d'équipe, parce que l'enjeu, c'est que les citoyens aient se voient rendre des services le plus efficacement possible, mais c'est aussi que notre territoire tout entier soit plus attractif et puisse aller de l'avant, c'est-à-dire se doter ou conforter les équipements publics, conforter son économie, attirer des populations nouvelles. Donc il y a une vraie complexité, je dirais, dans cette mise en place. J'espère qu'on arrive à la fin de cette période complexe. Il y a encore beaucoup de travail à faire.
Oui. J'ai entendu, une fois, j'avais invité Pierre Coste. Il me disait, aujourd'hui, il y a 6 personnes qui sont venues me parler de leurs problèmes. Et moi, j'écris des lettres, j'essaie de les aider, de les soutenir. Ça, c'est le bon côté de Pierre Coste.
Il en a d'autres. Mais,
mais le maire n'est pas quand même une assistante sociale. Moi, je crois qu'il faut voir l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire, il passe par les villes. Il passe au niveau plus grand. Quand on voit ce qui vient, c'est le conflit entre la Chine et les États-Unis. Et l'Europe sera peut-être l'ensemble qui permettra effectivement, face à ces grands blocs, de ne pas se perdre. La France toute seule face à la Chine, aux États-Unis, au Brésil, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc il faut se regrouper, il faut se centraliser. L'aménagement du territoire, moi j'ai été élevé par un prof, enfin élevé à la fac, qui insistait sur cet aménagement du territoire, et il passe par les villes, qu'on le veuille ou non. Le rural qui va vivre, c'est le rural qui aura autour des villes. Et le rural profond, j'ai peur qu'il soit un peu condamné. Donc cet aménagement du territoire, c'est on le fait. Voit au niveau de la vallée de l'Aveyron. On passe du syndicat d'initiative maintenant au grand site touristique. Et donc ça me paraît absolument important.
Sur Bellac.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Le rural de seconde zone, il a déjà crevé. Voilà. Je le dis, ça ne peut pas se dire autrement.
Ça mérite d'être clair.
Et ça progresse encore. Enfin, ou ça régresse plutôt.
Ce qui est vrai, on est toujours tendu entre deux choses. Le fait d'une efficacité et le fait d'une proximité. Et le combat, il est toujours là. Il y a l'efficacité d'un regroupement avec tout ce que l'on a déjà dit, et en même temps, il ne faudrait pas oublier l'espace de proximité qui fait vivre les gens. Aujourd'hui, on est dans une société où, c'est vrai, il y a une politique des villes, mais c'est vrai dans l'Église aussi, une politique des villes au détriment parfois des campagnes, de la ruralité. Ça, c'est clair. Pourtant, où c'est que les gens se ressourcent ? Où c'est que les gens reprennent leurs intérêts vitaux ? Où c'est que les gens se reposent ? Où c'est que les gens... C'est bien dans ces zones qui semblent un peu oubliées. Et on le voit bien l'été chez nous, où on double ou triple de population. Je ne sais pas, il vaut même plus à Najac. Mais c'est vrai chez nous à Villeneuve, parce que moi je suis aussi à Villeneuve. C'est vrai à Sainte-Croix. Alors je ne sais pas ici à Villefranche, mais parce que ce n'est pas tout à fait la même réalité. Donc il faut toujours tenir ces deux côtés de la corde à la fois. Efficacité et en même temps proximité, me semble-t-il. Mais c'est vrai dans tous les domaines.
Il y a quand même un déséquilibre.
Oui.
Et il s'accentue.
Approchez-vous du micro.
Si j'aurais dû amener une page de ce qui se passe sur ma commune depuis 10 ans. Impressionnant. Impressionnant. Nous perdons du service, évidemment. Ça génère une perte de population. Et il faut quand même... pendant les périodes estivales ou même les moyennes saisons, être présent, parce que nous avons besoin de travailler à ce moment-là. Et si vous voulez, nos moyens sont en train de s'étioler. Demain, je ne sais pas ce que ça deviendra. Mais je reste très pessimiste. Voilà.
Voilà, alors, vas-y, Raymond, tu voulais dire quelque chose.
Non, mais ce n'est pas pour contredire mon collègue et ami Raymond Rebellac, mais je ne suis pas tout à fait d'accord quand même. Le rural, il n'a pas complètement crevé. On a quand même dans cette région, dans ce grand Villefranchois, dans ce Villeneuvois, y compris dans le Najacois, une agriculture dynamique. Et une agriculture, elle compte quand même. L'agriculture fait bien partie du rural. Et cette agriculture dynamique, même le tourisme aura du mal à y vivre.
Oui, mais ce sont les deux vecteurs. Et aujourd'hui, on a grandi les exploitations, voilà, de 60 hectares, on passe à 100, on passe à 150, etc., etc. Et quand il s'agit de mettre le grappin sur de la vente, alors là, c'est malheureux, mais il y a des disputes, il y a des mésententes, enfin, c'est ingérable maintenant. Là, je plains les gens de la SAFER, franchement.
Tu prêches un convaincu là, de ce côté-là.
Mais il y a quand même un problème, c'est que beaucoup de fermes n'ont pas de successeurs. Ça, c'est. On voit le nombre d'exploitations agricoles baisser de façon très, très, très importante. C'est un fait.
Et à la fois, vous avez des jeunes qui demandent à s'installer.
Oui. Alors ça, donc c'est pour ça que tout n'est pas... je le... Moi, d'un point de vue religieux, qu'est-ce qui a changé? C'est le Concile Vatican II. Avant, on avait... Ah si, à mon avis, ça, c'est le point très, très important. On avait avant une religion un peu sociologique. Bon, c'était normal qu'on aille à la messe et tout ça, mais finalement, est-ce que les gens étaient vraiment chrétiens au sens de l'Évangile? J'en suis pas sûr. C'était des habitudes, alors qu'aujourd'hui, on a des petites communautés qui se regroupent pour lire l'Évangile, des groupes de prière, des communautés religieuses. Et donc, on passe de l'église-club, où les consommateurs de religieux du dimanche se retrouvaient, à des gens qui essaient d'approfondir leur foi. Ils sont peut-être moins nombreux, mais ces communautés, c'est le christianisme de demain.
Laurent voulait dire quelque chose.
Oui, moi je vais rebondir sur la, plutôt sur la remarque de Raymond Rébellac, sur la dernière qu'il a faite sur les jeunes qui souhaitent s'installer en agriculture et qui n'y arrivent pas, pour y voir quand même un élément d'optimisme. Moi, je ne partage pas ce pessimisme assez radical, hein, Raymond, que tu me surprends quand
nous
même.
Nous ne vivons
développer.
Pas dans les mêmes lieux.
On vit pas. Raymond Rébellac, pas Raymond Bonestab. Nous ne vivons pas dans les mêmes lieux. Non, mais c'est vrai, mais quand même, on vit dans des lieux qui sont assez proches les uns des autres. Et les réalités, on les connaît quand même. On a quand même des évolutions sociétales de fond, c'est vrai, qui ont un temps été défavorables aux territoires ruraux, très ruraux, et qui aujourd'hui semblent s'inverser parce que une nouvelle génération, peut-être, cherche d'autres choses en termes de qualité de vie, en termes d'accès à la nourriture de qualité, ne serait-ce que cela, d'espace. Et puis, si on parle d'infrastructures et d'aménagement du territoire, on va bientôt, et tout notre territoire, hein, y compris dans ces parties les plus rurales, bénéficier de la fibre optique. Et chaque ferme, chaque logement, d'ici 5 ans, sera raccordé comme le centre-ville de Paris, à l'Internet à très haut débit qui, d'une autre façon, c'est vrai, apporte énormément de services. Et là, ils seront à la maison, tous les services apportés par Internet. Voilà, tout l'accès, toute cette ouverture-là, qui va permettre aussi à des gens de venir travailler dans d'autres secteurs d'activité que le tourisme ou l'agriculture, en vivant chez nous et en profitant de tout ce qui fait notre qualité de vie.
Je vais dire, heureusement que le programme est passé de 15 ans, programmé il y a encore une année, à 5 ans pour tout le département.
Tout à fait. Là, c'est une formidable nouvelle qu'on a eue fin d'année 2017.
On reprendra tout cela. J'aurais quelques commentaires à faire à propos mais je ne les fais pas maintenant parce que ce n'est pas notre sujet sur l'Église. Voilà. Donc on reprendra après. Pour l'instant, on écoute une chanson de Judas Bocard. Judas Bocard, c'est un chanteur belge que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que j'aime bien, et qui parle du pays où l'on vit et du pays dont on rêve. Voilà.
Quand t'es dans un autre pays, t'as le mal de ton pays. Quand t'es dans ton pays, t'as le mal encore d'un autre pays, autre pays. Tu te dis peut-être que mon pays c'est la femme, et tu pars pour le pays de la femme. Et quand tu es dans le pays d'une femme, il arrive un moment où tu t'ennuies dans ce pays, et tu veux aller dans le pays d'une autre femme, et tu changes de femme et de pays. Quand t'es dans un autre pays, t'as le mal de ton pays. Quand t'es dans ton pays, t'as le mal encore d'un autre pays, autre pays. Puis un beau jour, tu te rends compte que tu n'es pas bien dans ta peau, et que ta peau, c'est ton premier pays, celui où tu devrais te sentir bien, celui qui te permettrait de voyager sans réellement changer de pays. Et tu te rends compte que ton mal de pays, c'est le mal de ton pays intérieur. Alors tu te rencontres, et à ce moment-là, tu es bien dans tous les pays, de toutes les femmes, de tous les hommes du monde. Et à ce moment-là, tu es bien dans tous les pays, de toutes les femmes, de tous les hommes du monde. Quand t'es dans un autre pays, t'as le mal de ton pays. Quand t'es dans ton pays, t'as le mal encore d'un autre pays. Autre pays. T'es dans un autre pays, t'as le mal de ton pays. Quand t'es dans ton pays, t'as le mal encore d'un autre pays, autre pays.
Voilà, donc nous reprenons. Je peux vous assurer que pendant la pause musicale, les conversations étaient animées autour de notre table, et c'est très bien ainsi. On parlait de proximité, on parlait d'importance des territoires et tout, et l'un de nous remarquait que, mais ce qui est important là-dedans, c'est quelle vision de l'homme nous avons, quelle vision, comment être proche des hommes, comment permettre à chacun de s'épanouir dans ce qu'il est, dans sa vie de tous les jours. C'est ça la vraie question. Parce que mettre des structures en place, ça sert à rien si elles sont pas au service de l'homme. Ça, je veux dire que... Alors, c'est sans doute en filigrane dans chacun de nos cœurs et de nos pensées, c'est vrai. Mais encore faut-il le dire, ça va mieux. Je reviens donc à ces communautés de communes qui ont été instaurées. Et quand je lis les compétences obligatoires, alors moi j'y connaissais rien, j'ai lu ça, j'ai piqué ça sur Internet, et puis c'est ce qui se passe. Il y a aménagement de l'espace, action de développement économique, gestion des zones d'activité, politique locale du commerce, gestion des aires d'accueil des gens du voyage, collecte et traitement des déchets, promotion du tourisme. Voilà, ce sont ce qui sont les compétences obligatoires. Autrement dit, tout cela revient à la communauté de communes, hein, et c'est-à-dire que parfois, les communes se dessaisissent un petit peu des prérogatives qu'elles avaient sur l'un ou l'autre domaine pour les passer à la communauté de communes. Hein. Donc, je voudrais que, autour de cette idée que tout ça s'est fait pour le plus de bonheur, normalement, le plus de vérité de l'homme, le plus d'épanouissement de l'homme, comment ces choses-là, concrètement, se mettent en place dans notre Villefranchois. Tu veux dire quelque chose ? Allez, vas-y, Laurent.
Oui, donc il faut savoir que cette liste de compétences, c'est pas les communes qui l'ont choisi, c'est le législateur qui a imposé à la France cette organisation qui contraint les communes à transférer un certain nombre de compétences de façon obligatoire aux communautés de communes et de façon optionnelle un certain nombre d'autres compétences et de façon facultative, si elles le souhaitent pour le coup, d'autres compétences encore. On est dans une... l'État pousse à ce regroupement, à cet élargissement des communautés de communes et au transfert de compétences. Et il y encourage les communes et les communautés de communes en donnant davantage de moyens, davantage de dotations, d'argent, aux structures qui sont plus intégrées. Voilà. Ce qui a pour effet, effectivement, si on veut bénéficier de plus de dotations, d'aller plus loin dans l'intégration avec les difficultés qui ont été évoquées dans la première partie de l'émission. Et
concrètement, moi je me pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire aménagement de l'espace ?
C'est l'urbanisme.
Oui, mais alors l'urbanisme au milieu d'un champ ou d'une porcherie à construire, voilà, je me pose des questions comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y en a un qui peut me répondre ? Parce que. Pierre, non, tu sais.
Je parle. Je sais comme tout le monde qu'il y a là beaucoup de flou, beaucoup de vagues, on y met ce qu'on y veut, mais C'est vrai que c'est l'aménagement de l'espace, c'est relatif à l'urbanisme. C'est vrai que l'homme consomme l'espace. Nous savons que tous les 10 ans, il y a par exemple un département français qui disparaît parce que se construisent des maisons, des routes, et ainsi de suite. Donc tout cela mérite un aménagement. Mais moi, je regrette que dans tout cela, on ne pense pas d'abord à l'homme, qu'on ne mette pas l'homme au centre, j'allais dire du jeu, mais c'est pas tout à fait un jeu, parce que je ne sais pas si c'est vraiment un jeu, non. L'homme, il perd presque son identité, là. On a commencé par mettre en commun des moyens, c'est-à-dire l'économie. On a essayé de regrouper tout ce qui pouvait rapporter. D'ailleurs, la communauté commune a une compétence économique, et aujourd'hui, lorsque se crée une entreprise sur une communauté commune, ben, il est évident que la communauté commune, ou sur une commune, ben, quand l'entreprise s'installe, elle va payer des impôts que va recevoir la communauté commune. La commune également, mais beaucoup moins. Donc, je regardais l'autre jour, à propos je vais prendre un exemple pertinent et probant, mais je l'ai oublié.
Voilà. Il te reviendra.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que tout cela profita à l'homme. Parce que c'est pas possible qu'on fasse tout ceci à marge de l'humanité. Et aujourd'hui, on voit bien que les relations humaines ne sont plus ce qu'elles étaient. Moi, je me souviens, enfin, je ne veux pas vous raconter l'histoire que je racontais à mes petits-enfants pour les endormir, mais en même temps, des histoires qu'ils aimaient beaucoup. Mais je me souviens, moi, de gens qui étaient dans un village qui ne s'aimaient pas. Mais au bord de la tombe, eh bien, le paysan a levé son béret et regardait quand même celui qui était parti. Eh bien, moi, ces instants poignants, je m'en souviens très bien. Et ça, ça prouvait qu'il y avait entre les hommes quelque chose de chaleureux. Aujourd'hui, je ne sens plus ça, et ça me désole, voilà.
Il y a quelqu'un qui veut intervenir sur... Vas-y, Raymond, peut-être.
Moi, on est en train de vouloir bâtir un plan d'urbanisme intercommunal. Je pense que l'idée de revoir tout ça, elle est bonne. Ça s'est vu déjà à l'échelle de certaines communes avec les PLU, plans locaux d'urbanisme, qui vont être peut-être un peu recorrigés, remis un peu au bout du jour. Mais la construction de ces choses-là est tellement réglementée que je trouve qu'il y a une sorte de carcan d'où on ne peut pas sortir. Et quelque part, il est vrai pour tout le territoire. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'adaptation, parce qu'il y a forcément des cas particuliers. Le Rouergue, c'est le Rouergue. Le Quercy, c'est différent. Donc, je trouve que quand même, les règles qui sont imposées par des gens qui sont aujourd'hui à la direction du territoire, et qui suivent l'évolution de ces travaux-là, c'est quand même très très difficile à suivre. Et les élus, qui ont quand même une certaine légitimité, sont canalisés à tel point qu'au bout d'un moment, ils en sont un peu dégoûtés de ces histoires-là. Voilà.
Ils sont bloqués,
voilà. Bon, j'espère qu'on aura beaucoup d'intelligence, et je pense que les gens qui suivent cette partie-là au niveau de la communauté sont des gens qui sont sérieux et qui ont l'envie. Et je veux dire, tant mieux pour nous. Voilà.
Tu voulais dire quelque chose, Raymond ? De particulier ? Non. Alors moi, je continue. Je lis dans ces compétences obligatoires « Action de développement économique ». J'habite, voilà, oui, on a le spécialiste à côté, oui, avec Laurent. J'habite ici à Villefranche et on entend toujours parler de cette désertification du centre-ville de Villefranche et tout ça, et donc on en entend parler dans toutes les trucs. Mais est-ce que cette action de développement économique qui touche donc la communauté de communes a un impact direct ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà.
Alors, je peux vous en parler, parce que ma délégation à côté de communes, c'est justement le développement économique. La communauté de communes a, sur le territoire, le monopole de cette compétence-là, c'est-à-dire de soutenir la création d'activités, au sens large. Donc, c'est les zones d'activité, c'est le commerce, l'emploi. Le centre-ville de Villefranche a un problème de commerce, mais qui est, à mon avis, la conséquence de notre problème d'urbanisme. Vous voyez, en fait, les choses sont tout à fait reliées. On parlait juste avant d'urbanisme, mais le centre-ville de Villefranche, c'est une bastide médiévale qui était adaptée à un mode de vie médiéval et qui, aujourd'hui, n'est plus adaptée aux attentes des populations contemporaines. Il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas assez de lumière. Et donc, aujourd'hui, on a un défi sur l'habitat du centre-ville, sur l'organisation de l'espace. Il faudrait créer des places, par exemple, et puis créer des logements plus grands pour qu'ils soient de nouveau attractifs entre centre-ville pour la population. Le commerce, puisque nous parlons du centre-ville, et donc le problème économique du centre-ville, c'est celui du commerce. D'une part, il est confronté à une mutation profonde, comme beaucoup de domaines au niveau national, mais d'autre part, chez nous, cette difficulté, elle est accentuée par ces difficultés d'urbanisme, voilà, de centre-ville. L'enjeu, quand même, pour la communauté de communes, c'est, avec les moyens dont parlait tout à l'heure Pierre Coste, de mettre à disposition de nos entrepreneurs des structures pour accueillir des entreprises, donc des terrains sur les zones d'activité, de les soutenir avec des subventions quand ils ont des projets d'investissement. Il y a d'autres actions qui sont en cours pour créer un club d'entrepreneurs, pour créer des espaces de coworking, puisqu'on va, je l'ai dit tout à l'heure, bientôt avoir la fibre optique, et donc qui permettra le développement du télétravail, par exemple. Et il y a des structures à mettre en place pour que notre territoire, qui du reste a un bon tissu économique d'entreprise, diversifié et globalement assez florissante, pour que notre territoire continue d'avancer, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, l'économie, qui permet d'avoir des moyens pour ensuite créer des équipements au service des hommes.
Oui, voilà, je voudrais apporter quelque chose à ce que disait Laurent. Là. Je vais vous raconter une petite histoire qui est très vraie et qui vous divertira. Ça, c'était Madame Sévigné qui parlait ainsi. Alors, je vous dis, à propos du centre-ville, il était une fois une réunion à Rodez des conseillers, pas conseillers, non, j'étais à ce moment-là conseiller général, certes, mais j'avais été envoyé à cette commission, je ne sais trop pourquoi, je crois que je remplaçais quelqu'un quand même. Bon, enfin, c'était pour une question d'implantation de 3 commerces à Villefranche, sur la route de Montauban. Alors, il y avait une commission dans laquelle, qui était présidée par M. Suzanne, l'ancien sous-préfet. Hein. Et puis, nous étions là une vingtaine, au moins. Hein. Il y avait toute la zone chalandise du Villefranchois. Et donc, des gens qui étaient représentants des communes voisines, Malleville, Digès, Saint-Antoine-de-Nobleval aussi, Caylus. Nous étions plus d'une vingtaine. Alors, il y a un tour de table qui a été fait. Il y avait deux architectes qui étaient à côté de moi, ceux qui avaient fait les plans, et tout le monde devait discuter sur la pertinence de cette implantation. C'était une implantation prévue route de Montauban. Hein. Je me souviens très bien des 3 commerces, tout au moins d'un. Je ne vous citerai pas parce que, bon, voilà, je ne vais pas faire un problème. Mais le président de la commission, donc M. Suzanne, pose la question: que pensez-vous de cette implantation? Chacun a dit ce qu'il en pensait. Et puis, moi, j'ai dit, je suis résolument contre cette implantation sur la route au Montauban. Vous allez encore une fois de plus. C'est exactement ce que j'ai dit. Vider le centre-ville. Bon, alors, on fait le tour. Et puis, M. Suzanne a dit, est-ce que vous pourriez écrire ce que vous avez dit tout à l'heure, en quelques mots? Et moi, j'ai écrit ma phrase. Bon, le président, enfin, M. Suzanne, a relevé les copies, en quelque sorte. Et il me regarda, est-ce que je peux lire ce que vous avez écrit? Je dis, pas de problème, allez-y. Eh bien, j'avais écrit exactement ce que je pensais. Eh bien, vous me croirez, si vous voulez, j'ai été le seul, vous entendez bien, le seul à dire, il n'est pas normal que ces 3 commerces s'implantent sur la route de Montauban. Voilà. J'étais le seul. Et depuis, ces 3 commerces sont sur la route de Montauban. Et alors, tout à l'heure, je parlais du syndrome américain. Je me souviens très bien des architectes qui étaient à côté de moi. J'aurais dit, pourquoi vous avez pris cette petite cabane pourquoi vous avez pris cette petite, dessiné cette petite cabane, c'est sur la route de Montauban, sur la droite, quand même. Bon, la question était pernicieuse, je reconnais, hein, parce que je connaissais la réponse. Ils me l'ont pas donnée, mais je la connais. Et ils ont dit après, mais voyez, après on couvrira là, et vous garerez votre voiture en boue là, et vous circulerez. Finalement, ils nous faisaient un mall américain, quoi. Hein. Et bien voilà, ça je regrette qu'on aille vers ça.
Non, mais c'est vrai, moi je dis des fois.
Cette petite histoire, je voulais la dire parce que souvent on culpabilise la municipalité de Villefranche, elle a peut-être la responsabilité, je n'en sais rien, sûrement, hein, mais elle n'est pas seule, quoi.
Moi, je dis souvent, en m'amusant, à des gens qui viennent chez moi, hein, parce que j'habite près de l'Aveyron, là, en disant, tu pars tout nu de chez moi, pieds nus, t'arrives en haut sur la route de Montauban, t'es habillé, t'as une bagnole, t'as tout ce qu'il faut, voilà, hein, t'as de quoi manger, t'es habillé, voilà. Hein, pour dire que tout se passe sur cet axe-là. Hein, je le dis en blaguant, mais c'est vrai. Hein. Raymond, tu voulais dire quelque chose?
Non, je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que disait Laurent. C'est très important, il faut que cette grosse structure quand même joue, nous aide à jouer l'économique dans cette région. Parce que si cette région n'est pas complètement foutue, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le rural, mais il y a aussi les deux pôles d'activité. Si on a du monde si on a des maisons qui se sont construites chez nous, c'est grâce à deux pôles d'activité, c'est grâce à la GLEM, mais c'est grâce, pour nous qui sommes au centre, au pôle de Figeac aussi. C'est très important, ou à certains pôles. Et si on n'a pas du travail dans la région, si on n'aura pas d'épanouissement, si on a du boulot, qu'on sur nos communes, on puisse accueillir de nouveaux habitants, on puisse accueillir des jeunes, on puisse conserver nos écoles, mais ça rejoint la question de Didier. C'est bien ça. Il faut que cette structure, puisque maintenant on y est, nous aide à apporter du boulot, de l'activité pour pouvoir s'épanouir dans nos communes.
Oui. Alors, moi je trouve que tout ça c'est important et on va essayer de parler de choses très concrètes qui touchent les gens. Je t'en ai, quand on a parlé un peu de cette émission, que je téléphonais à Raymond pour savoir s'il était libre pour venir, ou on s'est dit trois mots avec Pierre aussi avant de venir ici, je pose une question très concrète. On parle de collecte et traitement des déchets. Quelle est la différence entre le fait que des communes, ça soit passé à la communauté de communes? Voilà, pour que les gens comprennent. Alors, je vous dis, au niveau du matériel, au niveau des personnels, au niveau des espaces où des centres de déchetterie, des choses comme ça, au niveau de tout, quoi, et au niveau économique. Qu'est-ce que ça change dans une petite commune comme... enfin, petite, pardonne-moi, je dis petite par le nombre, mais pas par le rayonnement. Hein. Voilà, mais qu'est-ce que ça change entre une petite commune et puis la grande communauté des communes? Pour toi, par exemple, concrètement, les déchets, dis-nous.
Mais au niveau des déchets, on n'aurait pas les moyens de collecter les déchets, on n'aurait pas les moyens de les trier, on n'aurait pas tous ces moyens. Et il y a longtemps qu'il y a eu un regroupement au niveau des OM. Je ne m'en rappelle pas, mais avant, la communauté de communes Villeneuve-Diégélot, qui avait fait son centre de tri, qui avait fait sa déchetterie, qui avait fait tout ce qu'il faut, il y avait quand même un CIVOM qui avait commencé ce travail-là, au niveau du ramassage et tout. Grâce à cette structure, mais ça se passait très bien au niveau de notre petite communauté de communes de Villeneuve, le ramassage des déchets, l'information auprès des écoles, tout se passait très bien. On n'aurait pas les moyens, dans une commune comme ma commune, comme Sainte-Croix, d'apporter les services que nous apporte, qu'on a pu, en mutualisant les moyens au niveau de la communauté de communes, qu'on a pu apporter aux gens.
Donc la concentration a du bon aussi.
De ce côté-là, oui.
Voilà, donc ce que veut dire par là, alors dernière question avant d'écouter une musique, si il faut acheter un nouveau camion pour les déchets, comment ça se passe? Voilà, il faut acheter un nouveau camion et il faut deux personnels de plus pour s'occuper de ce camion. Je prends un exemple peut-être idiot. Comment vous faites? Qui décide et comment ça se passe? Ah voilà, grand silence.
Non, mais vraiment peut-être. Vraiment.
Pas du tout. Bon, imaginez quand même que avec le regroupement, en début de regroupement, on fait le bilan et on se rend compte que les OM représentent un déficit.
Alors, dis les OM, c'est quoi pour les gens?
Ordure ménagère.
D'accord.
Hein, c'est pas l'Olympique de Marseille. Mais quoi que de temps en temps, ça peut le devenir. Voilà.
Moi, je suis partisan de l'OM.
Mais... Donc, au tout début, ces services représentent un déficit de 650 000 euros par an. C'est pas rien.
Hein. Ah non, non.
Donc le but aujourd'hui, c'est quand même d'aller retourner tous les cailloux, comme on dit dans le Quercy, de manière à savoir où sont les soucis et où c'est qu'on peut améliorer cette gestion. Alors, si on remonte dans le temps, Vous savez, les OM, c'était rien du tout. À Najac, par exemple, c'était un garde champêtre qui, avec un âne et une carriole, ramassait ce qu'il pouvait y avoir devant les maisons. Or, la population a diminué, mais le volume, lui, il a augmenté, nettement. Bon. Et ensuite, les soucis de traitement ne sont plus les mêmes. C'est évident que quand on faisait des courses, on oubliait quatre trucs dans un bout de papier, le papier, il brûle. Aujourd'hui, c'est différent. Nous avons du carton, de l'ondulé, nous avons des plastiques, et là, ça change la donne. Voilà. Donc, aujourd'hui, les ordures ménagères, c'est carrément une entreprise. Et une entreprise avec du personnel et avec des moyens. Et les moyens sont chers. Vous savez qu'un camion, c'est pas donné. Alors, c'est un gros parc. Et puis, c'est beaucoup de personnel. Et au bout du bout, ça coûte.
Oui, oui.
Et donc, je pense que le regroupement, il est incontournable. Voilà. Et je pense que... Je prends l'exemple de la communauté de Villeneuve. À un moment donné, elle a un camion qui est vieillissant. Elle fait appel à la communauté de Najac. Et on n'est pas encore regroupés pour qu'on leur prête... Je vais pas dire un vieux riblon, puisqu'il marchait, mais quelque part, on est en train de jongler. Et quand on est en train de jongler, la meilleure solution, c'est quand même de se regrouper, parce que là, on se pose plus de questions. On met les moyens en commun, et peut-être même des fois le personnel en commun, et ça facilite beaucoup de choses. Voilà.
Voilà.
Oui, Villeneuve fut notre... Najac fut notre sauveur, donc.
Non, pas forcément, non. L'esprit, je suis d'accord avec
vous. Voilà.
Bon, ceci dit, Villeneuve, au niveau, on n'avait pas un déficit monstre, on arrivait très bien.
Je parle d'un global, moi. Je ne sais pas parler de Villeneuve. Je ne sais pas parler de Villeneuve.
On va écouter un peu de musique. Le numéro 2, montre-moi le disque, oui, c'est ça. Donc, c'est un violon et piano, Catusson, Dvorak. Voilà. Voilà, on aime que nos émissions soient animées, parfois elles sont plus calmes, des fois plus animées, mais c'est que des gens de bonne volonté autour de la table, et c'est vrai que ces questions qui se posent veulent rejoindre, si vous voulez, la vie des gens dans ce qu'elle a de plus ordinaire, de plus quotidien, et à la fois de plus extraordinaire, parce que chaque vie est extraordinaire, et donc il faut jamais oublier ça. Alors, Un des aspects que l'on va aborder, qui n'est peut-être pas si simple non plus, c'est celui du tourisme. J'ai lu plein de choses là-dessus dans la presse. Donc le tourisme, maintenant, il y aurait un axe, comme disait le maire de Najac, qui est un peu tordu quand même, mais enfin, Dieu écrit droit avec des lignes courbes, pourquoi pas le tourisme, hein. Voilà, hein. Donc, un axe de tourisme qui fait Najac, Villefranche, Villeneuve, Saint-Antonin, puis on m'a dit, mais rajoute Caylus aussi, voilà. Donc, qui est-ce qui veut parler un petit peu de cette histoire d'office de tourisme ou de conception du tourisme sur ce large axe?
Oui, là, c'est un sujet qui a trait au renouvellement d'un label que nous avons avec les Villefranchois en tandem depuis 8 ans. Ce label, Grand Site Midi-Pyrénées, a vécu, il a fini son cycle, puisque Midi-Pyrénées s'est transformé, et nous sommes en Occitanie, voilà. Donc, par conséquent, l'Occitanie, elle a d'autres vues, elle veut du renouvellement, et on a effacé au 31 décembre 2017 ce label Grand Site Midi-Pyrénées, et nous sommes en train de concourir à son renouvellement. C'est-à-dire que un dossier est parti hier, 31 janvier, en direction de la région, et il va être analysé. Alors, à la sortie, ou nous serons gagnants, ou nous passerons à la trappe. C'est la règle du jeu. Donc, la région, elle veut modifier un peu la donne au niveau des zones. Donc, on aurait pu peut-être faire quelque chose avec le même tandem, mais c'est pas ce qu'ils attendaient. Alors, il faut savoir que, au terme de notre investissement il y a 8 ans, il n'y avait pas beaucoup de monde qui pariait sur nous, parce que je crois que la région ne nous attendait pas. Et on a bossé pendant 8 mois pour sortir un dossier qui tenait la route. Au final, on a, comme on dit, décroché la timbale. Et je peux dire, maintenant qu'on a passé 8 ans avec ce label, qu'il nous a rendu service à la fois au Villefranchois et à Najac. Alors aujourd'hui, on a envie de continuer. Et je pense que l'élargissement, c'est une bonne chose. Bon. L'élargissement, je pense que M. Coste, ici présent, l'aurait voulu à l'époque, mais je pense que pour des raisons multiples et variées, il est arrivé un peu tard sur le sujet. Il est arrivé au moment où on était titularisé. Voilà. Il pourra raconter sa version. Moi, c'est la mienne.
Bon. Moi, j'ai une version juste.
Oui.
Pas
oui.
Une version de circonstance.
Ouais, on fera pas venir le maire de Sauveterre pour témoigner aussi.
Tout à fait.
Voilà.
Méandrieux.
Alors, ensuite, bon, l'élargissement, on y est favorable. Enfin, moi, je suis favorable à l'élargissement. Et je sais que le maire de Saint-Antonin, pareil, une fois qu'on a eu abouti, est venu en disant « qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas compris », etc., etc. Bon. Et le coup était parti, et c'était trop tard. Mais Saint-Antonin, c'est aussi le Rouergue. Hein. Donc, ouais.
C'est l'histoire, ça.
Voilà. Et je pense que la frontière qu'on a voulu au Second Empire, elle est vraiment artificielle, quoi. Hein. Voilà. Je parle un peu comme parlent les Catalans, Espagnols et Français. Ils la voient pas, la frontière. Quand ils travaillent, ils travaillent déjà ensemble. Donc, c'est Saint-Antonin, c'est tout à fait logique. Et quand on dit que l'on voulait avoir un label avec les Bastides, là aussi c'est logique. Donc quelque part on a ajouté des choses, et finalement tout ça, ça tient debout. Alors maintenant reste à savoir si on va aboutir, quoi. Voilà. Mais ce serait vraiment un gros succès, ça. Un gros succès, on va dire, pour les communautés de communes, puisqu'on parle du grand Villefranchois, mais aussi on parle du Quercy, là. Hein,
oui.
Voilà. Donc moi, je serais très heureux que ça aboutisse. Pour les quatre communes majeures et pour les autres.
Oui, mais je ne mettrai pas de sel sur les blessures, mais il faut savoir quand même qu'au départ, le label Grand Site devait être attribué. La seule fois où on a entendu parler, c'était au salut patrimoine, c'est-à-dire au bain-douche. il était question d'être candidat à 6, c'est-à-dire toutes les Bastides. Voilà, c'est comme ça que ça... Et puis après, il n'y a eu l'éclosion que Najac et le Villefranche.
Ça, c'est une version.
C'est pas une version. Non,
c'est
non,
c'est pas une version. Avec c'est, Serge Roch, nous la retenons pas, et pas davantage.
Alors, oui, moi, je voudrais dire que...
J'ai maintes fois
qu'il faut pas perdre de vue...
Et bien, je maintiens.
Juste, excusez-moi, mais il faut pas perdre de vue que... c'est quand même un défi de construire ce nouveau territoire à trois nouvelles communautés de communes, et que parmi... tout ce qu'il est important de faire, c'est d'oublier le passé et de se projeter vers l'avenir les uns les autres, parce que sinon, on détricote toutes les évolutions et puis on a du mal à avancer, on reste bloqué sur des sujets qui ne sont plus d'actualité. Moi, je pense que le tourisme pour notre territoire, c'est un potentiel de développement économique. Là encore, Najac a été, pour des raisons historiques, exemplaire dans ce domaine-là. Et Raymond Rebellac a très bien présenté le dossier de candidature au grand site d'Occitanie qu'on espère tous obtenir. C'est un enjeu en termes de promotion du territoire, de tout le territoire. Hein. Ça apporte des campagnes de communication dont peut-être on se souvient pour certaines, pour le grand site Villefranche-Najac. Il y aura, j'imagine, l'équivalent à l'avenir pour le futur grand site. C'est aussi des moyens que donne la région, donc qui attribue ce label, aux communes, à toutes les communes du territoire. Et Villeneuve est un des 5 pôles d'excellence touristique, je crois, c'est le terme, avec Najac, Villefranche, Quélus et Saint-Antonin dans le projet de grand site. Le dossier, il est complexe à monter parce que dedans, il faut y prévoir des projets d'investissement sur des équipements publics, sur de la rénovation de l'espace public. Et le label vaut, de la part de la région, une bonification des subventions aux communes qui conduisent ces projets. Voilà. C'est un des enjeux. Un autre mérite du label, c'est de nous obliger à réfléchir à une stratégie de développement de cette économie-là.
Raymond. Oui, moi je ne me permettrai pas d'apporter un jugement sur le label, puisqu'on a mes 3 collègues là sont relativement compétents dans le domaine. Mais moi je demanderai à ce que nos communes ne soient pas oubliées. Par exemple, Sainte-Croix, nous avons fait de gros efforts pour l'aménagement et nous avons un patrimoine quand même qui est très beau. La tour de Sainte-Croix a une histoire. Et voilà pourquoi nous avons adhéré au centre culturel Aveyron-Ségalavior. Mont-Salès l'a fait aussi, qui a un beau patrimoine. Salle-Courbatier l'a fait aussi. Nous allons donc installer, dans les jours qui viennent, des bornes audio dans lesquelles les habitants du village, les enfants de l'école, présenteront la commune et tout. Alors à ce sujet, je demande à mes 3 collègues de nous aider dans ce domaine-là. Je demande à la communauté de communes de nous aider dans ce domaine pour arriver à notre. Voilà.
Par l'intermédiaire de ses offices. Le doit.
Eh bien, je t'en remercie.
Voilà. Oui. Donc, tu veux dire un mot encore?
Oui, moi, je voudrais insister, parce que ce n'est pas ressorti tellement, sur l'aspect culturel. Je fais partie de l'Université des Savoirs Partagés, et je sais que si notre région attire du monde, c'est que il y a à Villefranche une activité culturelle qui passe par des conférences, qui passe par la musique, qui passe par le cinéma d'art et d'essai, etc. Donc tout ça attire du monde, et ça c'est très important, me semble-t-il. On le voit, vient aux conférences de l'Université des Savoirs Partagés peut-être davantage de gens des campagnes environnantes que du centre-ville. Donc ça me paraît quelque chose d'important. Et l'aménagement du territoire, c'est pas que la culture, c'est aussi cette vallée de l'Aveyron qui relie Saint-Antonin, Najac, Villefranche, mais Villeneuve n'en est pas loin, et de la vallée de l'Aveyron. Tu vas pas dire le contraire. Mais bon, vous êtes à quelques kilomètres de là. Et ça, c'est des structures, les grandes vallées. Villeneuve est entre la vallée du Lot et la vallée de l'Aveyron. Mais toutes ces vallées sont des points de fixation extrêmement importants pour les touristes. Donc, tout ça joue un rôle. Et Moi je pense que quand on voit trop petit, on se plante. Il faut se regrouper, regrouper les forces, regrouper les efforts. C'est l'avenir. On peut rêver au passé, mais il est passé. On est dans des problématiques différentes. Maintenant, c'est les problèmes d'environnement, de dérèglement climatique, c'est les migrants qui arrivent, c'est tout ça. Si on se projette pas dans un nouveau monde, on se plante. Et ça, on a le droit d'avoir des nostalgies, mais économiquement, ça ne tient pas la route.
C'est vrai ce que tu dis. Moi, je suis de ton avis. Il faut avoir toujours l'audace d'inventer de nouveaux modèles, d'aller de l'avant et tout. Mais en ayant cette audace-là, il ne faut pas oublier, et ça serait ma tendance un peu de vouloir aller trop vite et tout, il ne faut pas oublier une partie de la troupe qui a plus de mal à avancer, qui boite, qui a plus... Voilà. Et nous sommes là pour tous, quel que soit notre rôle, que l'on soit prêtre, que l'on soit maire, que l'on soit... On est là pour que tout le monde essaie de progresser. Et les rythmes de chacun ne sont pas les mêmes. Alors, il faut avoir un projet, mais en même temps, il faut tenir compte de ceux qui traînent un peu la patte.
Hein. Tout à fait, mais il y a deux choses. Tout d'abord, toute innovation, quelle qu'elle soit, elle peut être souhaitée, mais elle est sous-tendue par un écrasement, par un effacement d'un certain nombre de structures aussi, d'une part. Et d'autre part, quand vous parlez de nostalgie, il ne s'agit pas d'être passéiste, c'est pas cela.
Non, non, non.
Mais le passé nous instruit. Et si on ne connaît pas son passé, on ne peut guère préparer le présent et a fortiori le futur.
Eh bien, ça sera le mot de la fin, parce que je vois que notre ami me fait signe en disant, alors on écoute une dernière chanson, que, vous voyez, on est en Occitanie, c'est une chanson qui parle de la Garonne, qui aurait pu aller ailleurs, voilà. Mmh. Occitanie, Midi-Pyrénées, et puis tout ça, parce qu'il faut Méditerranée, parce qu'il faut les autres, il faut respecter les sensibilités de chacun aussi, ouais, dans ces choses-là. Merci à tous les quatre, merci aux amis. Cette émission passe sur Radio Présence Figeac. Elle est rediffusée ailleurs. C'était l'heure du carillon.
Voilà, comme invité, nous avions quatre maires de nos communes environnantes. Mmh. Alors on va les citer. Monsieur Pierre Coste de Villeneuve, je le lis pour ne pas s'oublier. Monsieur Raymond Bonestève, maire de Sainte-Croix. Laurent Tranier, qui est premier adjoint à la mairie de Villefranche et puis qui est aussi vice-président de la communauté des communes.
Mmh. Avec tous les trois.
Même. Ils sont tous vice-présidents. Oui, bon, oui. C'est très bien. Vous voyez qu'on a, on avait l'élite des élus. Et puis, il y a M. Raymond Rebella, qui est le maire de Najac.
Merci à tous. À bientôt.
Si la Garonne, elle avait voulu l'enturler, lorsqu'elle sortit de sa source, diriger autrement sa course et vers le midi s'est penchée. Qui donc eût pu l'en empêcher? Tranchant plaine, vallant montagne, si la Garonne, elle avait voulu, si la Garonne, elle avait voulu, si la Garonne, elle avait voulu, elle allait arroser l'Espagne.